Bonjour à chacun, à chacune. Comme Charles Abel l'a rappelé dans son accueil, nous avons effectivement eu la visite de Philippe de Corvey qui nous a apporté des conférences sur les réveils dans l'histoire du christianisme. Nous avions aussi à cœur avec Santosh Iti, je ne sais pas s'il est là ce matin. Ah oui, salut mon frère. Nous avions eu à cœur avec Santosh d'apporter quelques prédications sur les suites, effectivement, de la réforme dans cette année qui célèbre les 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Et comme un petit peu il l'a fait, j'avais à cœur, si tu peux envoyer le PowerPoint, merci. J'avais à cœur de commencer par quelques questions pour vous mettre un peu dans le bain et peut-être aussi pour voir si vous vous souvenez un petit peu de ce que Santosh nous avait partager la dernière fois. Alors je vais commencer par quelque chose de très très simple. Est-ce que vous vous souvenez quel est le nom des trois principaux réformateurs? Qui peut me le dire? Non, il n'y a pas Harry, non. Merci. Luther. Calvin et... Oh là là, il y a plein de noms... C'est pas de Bèze, c'est Zwingli. C'est Zwingli, le réformateur suisse. Voilà, alors on va juste voir si ça fonctionne. Voilà, c'est les trois principaux réformateurs. On a encore parlé de John Knox qui a apporté la réforme en Angleterre, la réforme anglicane. Voilà, une autre question, décidément. Peut-être un peu plus difficile, ça c'est ce que nous verrons ce matin. Dans quelle ville a été fondée la première église libre? Est-ce que vous le savez? J'entends, alors je vous laisse des propositions, je suis désolé, je pensais que ça irait mieux. Voilà. Genève, Londres ou Zurich? Qu'est-ce que vous pensez? Genève. Zurich. Alors c'est effectivement... C'est Zurich. Non. On le verra tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aussi, nous l'avons vu lors du réveil de Genève. Oui, merci, c'est gentil. Je pensais que ça marchait, c'est les pins qui doivent être. C'est très bien, merci beaucoup. Nous l'avons vu avec le réveil de Genève, hein. C'est les premières églises aussi libres. Mais c'est à Zurich que la toute première église libre, indépendante de l'État, est née. Nous le verrons encore tout à l'heure. De qui parle le comte d'Alzey? Que dois-je faire? Plus j'en tue, plus leur nombre augmente. Est-ce qu'il parle des blattes de sa cuisine, des huguenots ou des anabaptistes? On pourrait hésiter entre huguenots et anabaptistes. Ce matin, je vais vous parler des anabaptistes. C'est de ces personnes-là dont parle le comte d'Alzey. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Eh bien, que signifie ce terme anabaptiste? Est-ce que vous savez quel est le sens de ce terme? Alors, voilà, c'est plus exact. Effectivement, on verra, les anabaptistes ne baptisent pas les enfants, mais le terme même veut dire rebaptiser, baptiser à nouveau. Et un passage des évangiles a particulièrement inspiré tout ce mouvement des anabaptistes. Est-ce que vous savez lequel? Il fait partie des évangiles, hein. On parle de, j'ai entendu Matthieu, c'est juste. La fin de Matthieu. Non, c'est pas la fin de Matthieu, Matthieu 28. Nicodème. Non, c'est vrai que là, tu penses peut-être à naissance, nouvelle naissance, hein, faut naître de nouveau. Oh, c'est certainement très juste, mais il y a tout un... Oh, je suis pas un spécialiste, donc c'est peut-être juste, mais il y a tout un passage, voilà, ça commence par les béatitudes, c'est tout le sermon sur la montagne. Hein, c'est ces deux chapitres de Matthieu 5 à 7, enfin 3 à 5, 6, 7, qui les ont particulièrement inspirés dans cet exemple et cet enseignement de Jésus. J'en reparlerai. Les anabaptistes étaient réputés pour bien des choses, mais entre autres, pourquoi? Est-ce que c'était pour leur excellence dans le maniement des armes, dans le ragoût de lapin aux fines herbes, bon, ou pour leur pacifisme? Voilà, je vous aide un tout petit peu. Oui, c'est vrai, les anabaptistes étaient réputés pour leur non-résistance, leur pacifisme. Voilà. Une question peut-être plus difficile. Quelle communauté refuse encore aujourd'hui les progrès du monde moderne? Je vous avais fait trois propositions en me demandant si vous arriviez à retrouver. Et je vous proposais les Quakers, je proposais les Amish et les Hittites. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour Santosh, qui m'avait brocardé lors d'un dernier questionnaire. Mais je vous rassure, ce n'est pas les Hittites. Santosh est un pédiatre tout à fait moderne, avec toutes les installations qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est effectivement pas les Quakers. Santosh en a parlé, je crois, la dernière fois. C'est ce mouvement puritain anglais, émigré aux États-Unis. C'est les Amish dont on parlera aussi, puisqu'ils sont liés à la réforme radicale. Voilà, un petit peu, on peut laisser hein, pour la suite quelques éléments que vous retrouverez dans ce partage que j'aimerais vous faire de cette réforme radicale. Alors c'est vrai que on l'a vu, on l'a perçu lors de ces dernières prédications, la réforme initiée par Luther en Allemagne, par Zwingli à Zurich, ici en Suisse, cette réforme a initié beaucoup d'espoir. Par sa critique, c'est vrai, d'un système religieux qui a été corrompu sur bien des points, elle a soufflé un vent de liberté parmi la population. Mais cette réforme va aussi laisser beaucoup de gens insatisfaits. Beaucoup de gens parmi le peuple désiraient aller plus loin, souhaitaient voir des changements plus radicaux encore. Et dans tout ce bouillonnement d'esprit, hein, dans ces années 1517-1520, ce bouillonnement d'esprit va conduire à deux choses. À d'une part, à la guerre des paysans, je crois qu'on en avait touché un mot la dernière fois. Il s'agit là d'un soulèvement des paysans de l'Allemagne du Sud, de la Suisse et de l'Alsace, qui va mêler tout à la fois des revendications sociales, une plus grande liberté aussi, et des revendications religieuses. Une révolte que Luther va, vers la fin de son ministère, condamné et qui fera plus de 100 000 morts entre 1524 et 1526. Et à côté de cette guerre des paysans, eh bien, il va y avoir le surgissement de cette réforme radicale. C'est une appellation générale qui va regrouper plusieurs courants, plusieurs groupuscules radicaux aussi, qui vont émerger dans ces premières années de la réforme entre 1520 et 1530, mais qui pour la plupart ne vont guère durer. Ce sont essentiellement les églises mennonites qui aujourd'hui sont le fruit direct de ce mouvement de réforme. Cette réforme radicale a surtout pris racine parmi les gens du peuple et elle s'inscrit d'une certaine manière dans la continuité de la réforme dite magistérielle, hein, cette réforme de Luther et de Zwingli. Tout simplement parce que de nombreux radicaux sont d'abord des acteurs importants aux côtés des grands réformateurs, avant que ceux-ci prennent leur distance. Et c'est vrai que dans un premier temps, certains se sont mis à contester, dans l'entourage de Luther, la validité du baptême des enfants. Et dans un second temps, on se met à parler, plutôt là autour de Zwingli, de la possibilité de se faire rebaptiser sur confession de sa foi. Et cette réflexion de quelques ans s'appuyait sur une conviction. La conviction que la foi implique un engagement personnel et conscient en réponse au don de Dieu. Et cette conviction va conduire à une nouvelle conception du baptême. Ce baptême devient le signe extérieur d'une foi intérieure vécue consciemment et de ce fait doit être réservé aux adultes. Et ce nouveau regard sur le baptême va amener lui-même une nouvelle conception de l'Église. Désormais, certaines personnes vont aspirer, alors non plus à une Église d'État qui baptise tous les nouveaux-nés, et qui compte comme membres eh bien, tous les citoyens de la société, automatiquement, de fait. Mais ces personnes vont aspirer à une église des croyants, une église où seules des personnes qui se repentent de leurs péchés, des personnes qui se tournent vers leur Christ et qui s'engagent à le suivre toute leur vie, doivent être baptisées et faire partie de la communauté. Donc, à l'idée d'une église dite de multitude, sous la mainmise de l'État, va s'opposer désormais l'idée d'une église dite de confession, libre par rapport à l'État. Et c'est Konrad Grebel, un notable zurichois, qui va être le chef de file le plus important et qui est à l'origine de cette idée d'une église de confession. Grebel appartenait au cercle intellectuel qui entourait Zwingli, mais il trouvait ce dernier beaucoup trop prudent dans sa manière d'aborder certaines questions. Zwingli a notamment toujours voulu laisser le conseil de ville de Zurich contrôler la réforme à Zurich, alors que Grebel, lui, rejetait cette mainmise de l'État sur l'Église. Malgré ces désaccords, Grebel et ses amis ont toujours espéré que le réformateur permettrait à la parole, à l'Esprit de Dieu, de diriger ce renouveau dans l'Église d'État de Zurich. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs tentatives de conciliation, ou en tout cas de discussion, pour trouver un accord entre Grebel et Zwingli, mais malheureusement sans succès. Lorsque, en janvier 1525, le conseil de ville de Zurich donna l'ordre à Grebel de cesser les réunions d'études de la parole qu'il tenait avec ses disciples. Et là, ça va être le déclic. Jusqu'alors, Grebel avait soigneusement évité la rupture avec l'église établie à Zurich pour pouvoir réaliser cette église fidèle à la Bible comme il la comprenait. Mais désormais, suite à la décision de ce conseil de ville, il s'est senti libre de fonder l'église de ses rêves, l'église telle qu'il la comprenait au travers de sa lecture biblique. Et là, réunis le soir même de cette décision, réunis en secret pour réfléchir et prier avec quelques-uns de ses amis, ils vont se rebaptiser entre eux. D'où le surnom de rebaptiseur ou anabaptiste qu'on leur a donné ensuite, mais à titre péjoratif, bien sûr. Et c'est là que la première église libre, moderne, était née à Zurich. Grebel fut aussitôt jeté en prison, il s'en échappa, heureusement, et partit prêcher dans les cantons d'Appenzell et des Grisons. Une année après, il mourrait de la peste, mais ce mouvement anabaptiste était lancé et il s'est répandu dans l'est de la Suisse, puis dans le sud de l'Allemagne. Au travers des Grisons, il a atteint l'Autriche et plus particulièrement le Tyrol. Il s'est aussi répandu vers Bâle, et puis après il est remonté vers l'Alsace et la Lorraine, où se sont trouvés bon nombre par la suite de Mennonites, on le verra. D'ailleurs, Jean-Yves Muller, je ne sais pas s'ils sont là ce matin, sont viennent de ces milieux-là. Et ça s'est aussi répandu dans le canton de Berne. Et au fur et à mesure de cette expansion de ce mouvement anabaptiste, d'autres figures importantes vont alors inspirer ce mouvement. Et j'aimerais juste mentionner très brièvement Michael Sattler. C'est Michael Sattler qui a mis par écrit, de manière concise, de manière claire, les fondements de la théologie anabaptiste. Et en 1527, à Schleitheim, une date importante, dans le canton de Schaffhouse, les anabaptistes suisses ont adopté une première confession de foi, la confession de foi de Schleitheim, probablement rédigée par Michael Sattler, et qui a participé comme ça au fondement de cette première église libre sous le nom des Frères Suisses. Peu après, Michael Sattler fut à son tour emprisonné, torturé, finalement brûlé sur le bûcher. Et peut-être, est-ce que vous avez vu le film qui lui a été consacré sous le nom de l'affaire Sattler? Un film dur, mais vraiment très intéressant. Alors on l'a vu au travers de tout ce cheminement qui a conduit à la création de ce mouvement anabaptiste, de cette création d'une église de confession, ce qui est fondamental dans la vision anabaptiste, c'est la place centrale accordée à la vie de disciple. Pour eux, ce qui est au cœur de la vie chrétienne, ce n'est pas tant l'expérience intérieure de la grâce, hein, comme pour Luther par exemple, mais c'est l'application extérieure de cette grâce à toute la conduite humaine. L'expression clé des anabaptistes, ce n'était pas la foi, comme pour les réformateurs, mais c'était suivre le Christ. Alors certes, hein, les anabaptistes avaient la foi, bien évidemment, mais ils l'employaient pour produire la vie. Ce n'était pas la foi seule, mais la foi qui mène à la sanctification. Et le baptême était pour eux, de manière prioritaire, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Citation de 1 Pierre, chapitre 3. C'était le symbole d'une complète reddition à Christ pour lui obéir, et non pas d'abord une expérience passée. Les anabaptistes étaient donc surtout intéressés par une véritable vie chrétienne, c'est-à-dire une vie modelée par l'enseignement et par l'exemple du Christ. Les réformateurs, croyaient-ils, quoi qu'ils aient pu professer, n'ont pas obtenu parmi le peuple, comme résultat de leur prédication, ni véritable repentance, ni régénération, ni vie chrétienne. Alors oui, l'accent mis par la réforme sur la foi était bon, mais pour eux, insuffisant. Parce que si on ne marche pas en nouveauté de vie, la foi devient vite hypocrisie. Et voici ce que dit un chef anabaptiste au chef de l'Église réformée lors d'un grand colloque à Berne. Je cite, « Lorsque nous étions encore dans l'Église nationale, nous avons compris par les écrits de Luther, de Zwingli et d'autres que la messe et les autres cérémonies papales sont vaines. Cependant, nous avons reconnu une grande lacune en ce qui concerne la repentance, la conversion et la véritable vie chrétienne. Je n'ai pas pu fermer les yeux sur le fait que la doctrine qui était prêchée, donc dans l'Église nationale de Zwingli, et qui était basée sur la parole de Dieu, c'est vrai, n'était pas mise en pratique. Aucun commencement ne fut fait pour une véritable vie chrétienne. Bien que la messe et les images fussent finalement abolies, la véritable repentance et l'amour chrétien ne devinrent pas évidents. Les changements qui eurent lieu concernent seulement les choses extérieures. J'ai alors trouvé en Konrad Grebel et ses amis des hommes soumis à la doctrine du Christ par la repentance rendue évidente par les fruits. Avec leur aide, nous avons fondé une association dans laquelle la repentance était mise en évidence par la nouveauté de vie en Christ. Alors c'est vrai que cette critique des anabaptistes à propos de la réforme était dure, mais je crois qu'elle n'était pas injuste. Il n'y a guère de doute qu'à l'origine, le but de Luther et de Zwingli visait un christianisme sérieux, pour tous. Mais ils furent loin de l'atteindre. Entre 1522 et 1527, Luther a mentionné à plusieurs reprises son intérêt à voir s'établir une véritable église chrétienne, comme il le dit, pour les chrétiens sérieux, qui confesseraient le Christ non seulement par leur vie, mais aussi, par leur vie et non seulement par leur bouche, excusez-moi. Et à un moment donné, Luther songea à enregistrer le nom de ces chrétiens sérieux sur une liste, dans un livre spécial, pour les réunir séparément de la masse des chrétiens dits de nom. Mais, concluant qu'il n'y aurait pas assez de gens, il abandonna ce projet. Et Zwingli prit le même chemin que Luther. Alors certainement que tous les deux ont espéré et s'attendaient à ce que la prédication de l'Évangile, de la Bible et l'administration des sacrements allaient porter des fruits et allaient se traduire par une vie chrétienne sérieuse, au moins chez quelques-uns, si ce n'est chez tous. Mais ils comptaient de manière permanente avec une grande masse de gens indifférents dans les églises. Or, les anabaptistes étaient convaincus qu'en s'engageant dans cette voie, les réformateurs avaient délaissé le but primitif et abandonné l'intention divine. Alors c'est vrai que d'autres, aujourd'hui, peuvent dire au contraire qu'ils furent sages, que dans les circonstances de l'époque, ils ont plutôt agi en véritable chef d'État ou homme d'État, et que par la manière dont ils ont agi, ils ont sauvegardé la réforme. C'est vrai, on peut le dire aussi. Mais je crois qu'il faut reconnaître aux anabaptistes le mérite d'avoir retenu la vision originale de Luther et de Zwingli, de l'avoir agrandi, de lui avoir donné corps et forme, et d'avoir cherché à accomplir cette vision par une véritable expérience. Santoche avait déjà souligné fortement cet aspect des choses lors de son dernier exposé sur l'issue de la réforme. C'était non pas pour dire à nous les évangéliques, nous sommes les meilleurs, mais c'est un point de vue accepté maintenant par de plus en plus de spécialistes, que de considérer l'anabaptisme, et je dirais aussi par la suite les mouvements évangéliques, comme le point culminant de la réformation, comme l'accomplissement de la vision originelle de Luther et de Zwingli. Mais bref, quoi qu'il en soit, l'anabaptisme fut un extraordinaire mouvement de foi. En 1531, 7 ans à peine après le début du mouvement à Zurich, un écrivain contemporain affirma que l'anabaptisme s'étendit avec une telle vitesse qu'il y avait raison de craindre que la majorité du commun peuple s'unisse à cette secte. Et Zwingli fut tellement effrayé par la puissance de ce mouvement qu'il se plaignit que ce combat avec le parti catholique ne fut qu'un jeu d'enfant comparé au conflit avec les anabaptistes. Et preuve de la puissance de ce mouvement fut la terrible persécution qui s'abattit sur les anabaptistes dans les années 1527 à 1560, dans tous les endroits où l'anabaptisme s'était implanté. Et cette persécution a aussi témoigné de la hâte désespérée avec laquelle les autorités, tant catholiques que luthériennes et zwingliennes, se sont efforcées d'étouffer ce mouvement avant qu'il ne soit trop tard. Un édit émis par la Diète de Spire en 1529 a ainsi condamné sommairement tous les anabaptistes à mort, ordonnant que chaque anabaptiste et personne rebaptisée de l'un ou l'autre sexe soit mise à mort par le feu, l'épée ou d'autres façons. Beaucoup ont été noyés. Mais il faut dire aussi que les autorités ont rencontré de grandes difficultés pour mettre en pratique et exécuter ce programme de répression. Parce qu'elles ont découvert assez rapidement que les anabaptistes ne craignaient ni la mort, ni la torture, et qu'ils scellaient avec joie leur foi de leur sang. En fait, le courageux témoignage de ces anabaptistes martyrs fut un très grand stimulant pour les nouvelles recrues, car cela remua l'imagination du peuple plus que toute autre chose. On entendit ainsi le comte d'Alzey, j'en ai parlé tout à l'heure, s'écrier après l'exécution de 350 anabaptistes, « Que dois-je faire? Plus j'en tue, plus leur nombre augmente. » Après les frères suisses, un autre courant né en Allemagne du Sud et en Autriche, et qui a été marqué par des hommes tels que Pilgram Marbeck, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, puis Jacob Hutter, a conduit, après 1530, à un anabaptisme qui pratiqua la communauté des biens. Il ne faut pas oublier qu'au XVIe siècle, la réforme était un mouvement non seulement religieux, mais aussi social, comme l'a montré d'ailleurs la guerre des paysans. Il était courant dans les années 1520 d'entendre les réformateurs s'élever contre les injustices sociales, contre les abus d'autorité ou encore contre la misère immense qui régnait à cette époque. Et l'idéal de la vie communautaire et du partage des biens a tout de suite inspiré les premiers anabaptismes et a fait partie de cette aspiration immense des foules. Et c'est vrai que la conception de l'Église anabaptiste, de cette Église vue comme un corps de chrétiens consacrés, de chrétiens pratiquants, engagés dans un modèle de vie selon les critères les plus hauts du Nouveau Testament, un tel modèle ne pouvait qu'impliquer la mise en pratique d'une véritable solidarité, fraternité et amour parmi les membres de l'Église. Et ainsi, à la suite, par exemple, d'un saint François d'Assise, parce que les anabaptistes n'ont pas été les premiers, bien entendu, les anabaptistes ont partagé cet idéal de confiance dans ce Dieu qui pourvoit, un idéal de style de vie simple qui fait la distinction entre le nécessaire et le superflu, la nécessité aussi de partager ses biens avec les personnes dans la détresse comme justice voulue par Dieu. Et un anabaptiste martyr disait ainsi des frères, s'ils ont connaissance de quelqu'un dans le besoin, qu'il soit ou non membre de leur église, ils considèrent qu'il est de leur devoir de lui apporter secours et assistance, et cela a été mis en pratique par tous les anabaptistes, mais c'est Jacob Hutter, chef reconnu des anabaptistes d'Autriche, et en particulier du Tyrol, qui va pousser cette logique jusqu'au bout. La communauté hutterienne, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, va ainsi renoncer totalement à toute propriété privée, dans une sorte de forme absolue de communisme chrétien. Mais le plus extraordinaire, c'est que cette pratique, par ce groupe, d'une vie entièrement communautaire, va avoir du succès, et va avoir du succès jusqu'à aujourd'hui encore, puisque cette église hutterienne existe encore. Si les persécutions dont ils furent victimes obligèrent cette communauté hutterienne à s'établir en Europe de l'Est, puis en Russie, avant d'émigrer finalement en Amérique, il existe encore aujourd'hui, au Canada et aux États-Unis, plusieurs centaines de colonies hutterites hutteriennes, composées chacun environ de 60 à 150 personnes. Vivant dans des fermes collectives, ces communautés restent relativement isolées du monde extérieur, elles parlent encore d'ailleurs un dialecte allemand, les biens et le travail sont répartis entre tous et aucun argent, aujourd'hui encore, ne circule à l'intérieur de ces communautés. Et c'est vrai qu'avec plus de 450 ans de vie communautaire ininterrompue, l'Église hutterienne est un mouvement tout à fait unique dans l'histoire. Mais revenons maintenant à la réforme radicale qui va continuer à s'étendre. Et l'homme qui va être le porteur de cette vision anabaptiste dans le nord de l'Europe et en Hollande fut un certain Melchior Hoffmann. Et deux mouvements vont émerger de son ministère. Un mouvement pacifique, comme Hoffmann lui-même adepte de la non-résistance, et aussi un mouvement violent mené par un Hollandais fanatique, Jan Matthysse. Il faut dire que dès le début de la réforme, plusieurs groupes vont émerger, notamment des groupes mystiques et spiritualistes qui vont apparaître et disparaître un peu comme la fleur des champs. Et ces groupes vont mettre l'accent sur l'inspiration directe du Saint-Esprit et sur le retour du Christ et l'établissement de son royaume sur terre. Et ces groupes furent malheureusement à l'origine d'un des épisodes les plus tragiques de la réforme radicale, le siège de la ville de Münster. En 1533, de nombreux réfugiés vont arriver dans cette petite ville du nord-ouest de l'Allemagne, et parmi eux des disciples de Hoffmann, dont un Jean de Leyde, un millénariste, persuadé que le royaume de Dieu va s'établir justement ici, dans cette bourgade à Münster. Alors il va faire venir auprès de lui Jan Matthysse, accompagné d'un grand nombre de disciples, et Jan Matthysse va devenir pratiquement le maître de la ville. Et ce dernier était convaincu de devoir rétablir l'Église apostolique afin de hâter le règne du Christ, et cela même en usant de la violence s'il le fallait. Et il va ordonner le rebaptême de tous les habitants de la ville. Ce qui provoqua bien évidemment le départ des catholiques, des luthériens, mais aussi le siège de la ville. Le prince évêque va alors assiéger la ville qui est aux mains de ces anabaptistes violents. Matthysse fut tué lors d'une tentative de sortie. C'est Jean de Leyde qui va alors organiser une sorte de dictature de caractère communautaire et qui va se livrer à des extravagances. Et c'est après seulement plusieurs mois, après cet établissement du royaume de Münster, comme on l'a appelé, que les armées du prince vont entrer dans la ville et provoquer un véritable massacre. L'aventure va se terminer dans un bain de sang. Et cette expérience, aberrante par certains côtés bien sûr, mais douloureuse aussi, allait lourdement peser sur l'avenir des anabaptismes. Et c'est suite à cet épisode et dans ce temps où, un temps de crise où les anabaptistes étaient suspectés de vouloir faire sédition, que va émerger un homme hors du commun, un ancien prêtre du nom de Menno Simons. Et c'est lui qui va rassembler tous les anabaptistes, de ces régions du nord de l'Europe et qui va leur donner, au fur et à mesure de son ministère, une nouvelle identité. On appellera désormais ce mouvement anabaptiste du nom d'Église Mennonite. Menno Simons enseignait et défendait les doctrines anabaptistes telles que l'Église de confession, séparée de l'État, le baptême des croyants, une forme d'Église non hiérarchique avec des anciens, l'obéissance fidèle à Jésus-Christ et surtout la non-résistance. En effet, l'éthique de l'amour et de la non-résistance est le troisième grand élément de la vision anabaptiste. Il faut dire que les anabaptistes n'ont pas été de grands théologiens, ils n'ont pas laissé de grandes œuvres théologiques, ils n'ont pas mis l'accent d'abord sur la doctrine, mais sur la mise en pratique quotidienne de l'enseignement de Jésus, et plus spécialement celui qu'on trouve justement dans le Sermon sur la montagne. Et c'est cette mise en pratique de l'amour du Christ qui va laisser de profondes traces. Un des meilleurs portraits faits des anabaptistes est celui donné par Sébastien Franck en 1531, un témoin objectif et bienveillant, quoique adversaire des anabaptistes, qui va écrire ce qui suit. Je cite, « Les anabaptistes gagnèrent rapidement beaucoup de partisans, attirant beaucoup d'âmes sincères qui avaient du zèle pour Dieu, car ils n'enseignaient rien d'autre que l'amour, la foi et la croix. Ils se montraient humbles, patients dans beaucoup de souffrances. Ils rompaient le pain ensemble comme preuve de l'unité et d'amour. Ils s'aidaient les uns les autres fidèlement et s'appelaient les uns les autres frères. » Oui, les sœurs, peut-être pas encore tout à fait. « En beaucoup d'endroits, il faut leur laisser du temps, en beaucoup d'endroits, on les appréhendait et on les martyrisait avec l'épée, le feu et l'eau, ce qu'ils souffraient avec patience et fermeté. Ils mouraient comme des martyrs, endurant patiemment et humblement toute persécution. » Le théologien catholique romain Franz Agricola va aussi écrire dans son livre de 1582 contre les terribles erreurs des anabaptismes, il va écrire ce qui suit. Parmi les sectes hérétiques existantes, il n'y en a aucune qui, en apparence, mène une vie plus modeste et pieuse que la secte des anabaptistes. Ils sont irréprochables en ce qui concerne leur vie publique, ni mensonge, ni tromperie, ni juron, ni lutte, ni langage rude, ni déploiement de faste personnel ne se trouvent parmi eux. Mais l'humilité, la patience, la droiture, la netteté, l'honnêteté, la tempérance, la franchise, dans une telle mesure que l'on pourrait supposer qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. Alors c'est vrai que si faire le bien à la suite du Christ était une évidence pour les anabaptistes, la question de l'attitude à adopter face au mal, face à la violence, face à la persécution qu'ils ont subie, fut une question beaucoup plus difficile. Et les anabaptistes ont dû passer par un processus douloureux d'apprentissage et de discernement avant de parvenir à un large consensus sur ce point vers 1540. Et leur conclusion était la suivante, les chrétiens nés de nouveau et baptisés doivent refuser de participer à la violence. Et cela signifiait pour ses frères l'abandon complet de tout acte de guerre, de lutte, de violence et de meurtre. Menno Simons va écrire en 1550 « Les régénérés ne vont pas à la guerre, ni ne s'engagent ou n'engagent de lutte. Ils sont les enfants de la paix qui ont forgé leur épée pour en faire des socs de charrue et leur lance pour en faire des serpes et ne connaissent pas la guerre. Et il se fondait en cela sur l'exemple de Jésus-Christ, hein, qui pria non pas ma volonté, mais ta volonté, et qui accepta d'être crucifié. Il se fondait aussi sur le commandement clair du Seigneur dans l'Écriture, hein, qui interdit toute violence et qui a interdit même toute haine vis-à-vis de l'ennemi, et qui commande l'amour du prochain et de l'ennemi. Les chrétiens usent d'armes spirituelles, mais non pas d'armes de fer ou d'acier. Mais c'est vrai aussi que cette réflexion ne va pas porter que des fruits positifs. En effet, hein, la majorité des anabaptistes vont arriver à cette conviction de se laisser guider par ces paroles de Jésus, Matthieu 5, 39, « Ne résistez pas aux méchants ». Mais pour eux, cette parole va signifier « Séparez-vous du monde, ne vous engagez pas dans son gouvernement ». Et s'il y avait quelques anabaptistes pour qui cette séparation entre l'Église et le monde ne devait pas être aussi absolue, la grande majorité, certainement à cause de cette persécution féroce dont ils ont été victimes, avait la conviction que l'Église devait être aussi séparée du monde que possible. Et on en arriva ainsi, dans la suite de l'histoire, je ne veux pas dire jusqu'à aujourd'hui, les Mennonites ont fait du chemin, mais on en est arrivé à une Église traditionnellement séparée, traditionnellement introvertie et discrète, qui finalement cherchait essentiellement à éviter des ennuis. Que sont donc devenus les anabaptistes ? J'arrive au bout. Eh bien, en Suisse, les anabaptistes, des frères suisses, vont disparaître complètement du canton de Zurich. Par contre, ils vont se développer et se maintenir dans le canton de Berne, malgré là aussi des persécutions qui vont entraîner tout plein de départs. De Berne, ces réfugiés vont s'établir dans le canton de Neuchâtel, dans le canton du Jura bernois, en Alsace, en Allemagne du Sud. Et dans ces endroits, ils vont jouir d'une certaine tolérance, tolérance relative et souvent passagère, mais au prix d'un isolement, social, je viens de le dire, et géographique. Ils devaient souvent résider dans des régions montagneuses ou reculées. Dans le Jura, souvent, on trouve ces fermes mennonites au-dessus de 1000 mètres, ce qui était une situation d'agriculture plutôt difficile. Tout ce qui était en dessous de 1000 mètres était plus facile, mais était réservé à d'autres paysans. Et ces anabaptistes ont pris, dans leur histoire, également le nom de mennonites. Et en Suisse, aujourd'hui, on trouve une église mennonite avec 14 communautés, qui regroupe environ 2500 membres. Et je signale qu'il existe aussi, alors c'est sur France, mais juste là à côté, une autre EEM, Église évangélique mennonite, mais oui, à Saint-Genis, que plusieurs d'entre vous connaissez. Et plus de 150 ans après le début de la Réforme, la préoccupation de vivre cette vie nouvelle, différente du monde, va conduire en 1693 un ancien de l'Assemblée de Sainte-Marie aux Mines en Alsace, du nom de Jacob Amann, à établir des règles très strictes pour codifier tant l'habillement que finalement tout ce mode de vie qu'il préconisait. Non seulement il va codifier, mais en plus il va imposer une stricte discipline de vie et il va imposer l'excommunication à tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à ce code. Et en pratiquant cette excommunication à l'égard de tous ceux qui ne partageaient pas son avis, il va créer un schisme dans lequel va entrer pratiquement toutes les communautés, toutes les assemblées d'Alsace et de Lorraine, ainsi que quelques communautés d'Allemagne et de Suisse. Et c'est là la naissance du mouvement Amish de ce fondateur Jacob Amann. Alors bien sûr, le rigorisme, l'austérité Amish va complètement disparaître des assemblées de France, mais ça va être exporté aux États-Unis, là où vont émigrer Jacob Amann et le noyau dur de ce mouvement, pour créer les communautés Amish qui existent encore aujourd'hui et qu'on connaît parce qu'elles ont conservé, c'est vrai, un mode de vie tout à fait particulier, un mode de vie et de travail qui en est resté au XVIIe siècle en refusant notamment l'électricité ou d'autres choses. Bon, il y a encore tout plein de mouvements à l'intérieur de ce groupement Amish, mais c'est un petit peu ça dont on connaît de ce mouvement. Et puis je terminerai en disant que les anabaptistes ont joué aussi un rôle essentiel dans la naissance du mouvement baptiste. Alors, effectivement, c'est au début du XVIIe siècle. Il existait en Angleterre des églises congrégationalistes, comme les nôtres ici. qui, contrairement à l'Église anglicane officielle, se voulait indépendante de l'État. Et suite à des persécutions, bien certains de ces églises anglaises sont venus se réfugier en Hollande. Et c'est grâce à des contacts avec une église mennonite que l'un de ces réfugiés anglais, John Smith, ça s'invente pas, arrive à la conviction que seul le baptême des croyants est conforme à la Bible. Alors lui et quelques autres vont se faire rebaptiser par immersion en 1602. John Smith va mourir 10 ans après, en 1612, mais c'est l'un de ses amis qui va retourner en Angleterre pour fonder la première église baptiste la même année. Et très rapidement, d'autres églises vont naître, et aujourd'hui, vous le savez sans doute, les baptistes représentent la plus grande dénomination protestante aux États-Unis, où l'on dénombre 26 millions de fidèles. Mais ils sont partout, en Angleterre, en France, et ici aussi également. Je conclue en disant que les descendants, oui, directs de ces anabaptismes de la réforme radicale se retrouvent donc aujourd'hui essentiellement dans l'église mennonite, répartie sur 5 continents avec plus de 1,5 million d'adhérents, ainsi que chez les Amish et l'église outhérienne. Et leur choix de se séparer radicalement du monde et surtout de suivre le Christ sur ce chemin étroit les a conduits à vivre un chemin de persécution et de souffrance. Mais je crois qu'ils ont été, à leur manière, et c'est pour ça que, oui, quelque part je les admire, ils ont été à leur manière, sel et lumière, à leur époque, jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que nous leur sommes redevables de certaines valeurs qui sont essentielles pour notre société aujourd'hui. Hein, il est hors de doute que les grands principes de liberté de conscience, de séparation de l'Église et de l'État, de liberté de choix de religion, si essentielle pour notre démocratie, proviennent en dernier lieu des anabaptistes du temps de la Réformation, qui pour la première fois ont clairement énoncé ces valeurs et ont sommé le monde chrétien de les mettre en pratique. Ils nous ont laissé aussi un exemple de foi, un exemple d'Église, qui, je crois, doit nous interpeller, qui nous devons méditer. Mais j'aimerais vous inviter maintenant, il est l'heure effectivement, à un temps de prière pour remettre à Dieu ce que peut-être nous aurait touché dans ce mouvement anabaptiste.